durant l'été sur le plan de lecture quotidienne, soif du Dieu vivant. Ah, ça n'avance plus. Est-ce qu'on peut passer la prochaine slide ? Durant cette dernière semaine, nous étions invités... Nous étions invités à lire l'Épître aux Colossiens. Donc, Nicolas avait prêché la semaine dernière sur l'Épître aux Philippiens et nous avions reconnu l'exhortation à aimer notre prochain d'un amour profond qui s'oublie soi-même, qui nous prend aux tripes et qui nous conduit à mettre tout en œuvre pour apporter à autrui l'amour de Jésus-Christ. Mais là, Paul s'adresse aux Colossiens pour une toute autre problématique. Alors voyons d'abord les faits, la situation spirituelle de l'église de Colosse, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Paul était emprisonné à Rome lorsqu'il a écrit cette épître. Et l'église qui existait à Colosse n'a pas été fondée par Paul lui-même. Donc je vous ai mis cette carte, vous voyez que Colosse, c'est tout en bas, là, à droite, à côté de Hiérapolis et la Odyssée. On voit d'autres églises dont on avait déjà parlé dans une autre prédication sur la lettre aux sept églises de l'Apocalypse. Donc c'est tout dans cette même région. Cette église de Colosse a probablement été fondée par un certain Épaphras. En effet, si Paul affirme aux Colossiens que la bonne nouvelle est parvenue jusqu'à eux, en Colossiens 1:7, il mentionne que c'est Épaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Grâce aux différentes lettres écrites par Paul durant sa captivité, donc il y a Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, de Timothée, il est possible de reconstituer la naissance de l'église de Colosse. Pendant que Paul était à Éphèse, il y a deux hommes qui ont été conduits à Jésus-Christ, deux hommes au moins, hein, parce que bien sûr il y a eu d'autres convertis, mais en particulier Épaphras et Philémon. Si vous avez un doute, vous retrouvez ça dans l'épître à Philémon au verset 19 et 25. En Colossiens 4, les versets 12 et 13, il est mentionné qu'Épaphras a aussi œuvré dans les villes d'Hiérapolis et de Laodicée, dont je viens de parler. L'église à Colosse se réunissait dans la maison de Philémon. Et on connaît aussi d'autres membres de cette église. Il y a Appia, Archippe, Onésime. Onésime, c'est l'esclave fugitif de Philémon qui fait l'objet de l'épître à Philémon. Alors, il semble que tous ces hommes soient issus de ce qu'on appelait à l'époque le paganisme, c'est-à-dire qu'ils sont des nouveaux convertis, mais qui ne sont pas juifs à l'origine. Et ça, ça a une importance pour la compréhension de l'enseignement que Paul veut apporter aux lecteurs de Colossiens. On admet traditionnellement que cette église était assez jeune lorsque Paul lui envoie cette lettre, et on peut lire en Colossiens 1:4. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Jeune, cela veut dire, et on l'a chanté dans un de nos chants ce matin, que quand on vient de se convertir, on est tout feu tout flamme pour le Seigneur. On est avide d'apprendre, de mettre en pratique. Mais il faut quand même faire bien attention à ne pas se laisser influencer par... des personnes, des tendances, une culture qui est autour de nous. Mais c'est malheureusement ce qui semble être le cas pour cette petite église, et cette petite église qui n'existe plus actuellement. Vous voyez là les restes de Colosse qui existent en Turquie. Et donc Épaphras, il a rejoint Paul à Rome et il lui a fait part des nouvelles doctrines qui se développent au sein de la communauté. Alors, on ne sait pas exactement tout ce qu'Épaphras a dit, on n'a pas de lettre d'Épaphras qui explique en long, en large et en travers ce qui se passait. Mais on a des indices de ce qu'il a pu dire à Paul. Et voilà ce que Warren Wiersbe dit dans son livre « Soyez épanouis ». Quelle était donc l'hérésie qui menaçait la paix et la pureté de l'église de Colosse ? C'était un mélange de philosophie orientale et de légalisme juif. Cette hérésie promettait d'abord une union si étroite avec Dieu qu'elle permettait aux adeptes d'atteindre la perfection spirituelle. Il leur suffisait d'accomplir les cérémonies et les enseignements prescrits et la plénitude spirituelle était à leur portée. Ils avaient ajouté à ces théories orientales une forme de légalisme juif. Les enseignants croyaient que le rite de la circoncision était nécessaire au développement spirituel. Ils enseignaient que la loi de l'Ancien Testament et surtout les lois diététiques étaient utiles pour atteindre la perfection spirituelle. Des lois et des règles précises leur prescrivaient ce qui était bon ou ce qui était mauvais. Ces hérétiques attaquaient la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Pour eux, Christ n'était qu'une des nombreuses émanations de Dieu et non le vrai Fils de Dieu venu dans la chair. Donc voilà, un petit mélange de plein de choses. Et si vous aviez été à la place de Paul, et si vous aviez entendu ces choses, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, pour ma part, j'aurais tout bien noté, réfléchi, cherché. Alors, tu dis ça, mais dans la Bible, on dit ça, et ainsi de suite. Et j'aurais affirmé, dès le départ de ma lettre aux Colossiens, que j'ai entendu parler de vous et j'ai remarqué que vous vous égarez dans de fausses croyances. Voilà ce qui vous est dit et voilà ce que Dieu et notre Seigneur Jésus nous ont enseigné. C'est ça que vous devez croire et pas ce qu'on vous dit. Donc en fait, j'aurais vraiment attaqué de front, je serais rentrée dans le vif du sujet pour bien leur faire comprendre qu'ils se trompaient. Mais heureusement, Paul avait bien plus de sagesse que moi. Après avoir loué la foi des Colossiens, il ne les a pas accusés, mais il a proclamé l'hymne que nous avons lu en préambule de cette méditation, qui nous présente la grandeur et la toute-puissance de Jésus-Christ. Alors, revenons sur ces quelques versets. Dans cet hymne, Paul souhaite tout simplement rappeler la supériorité absolue de Jésus-Christ en toutes choses. Avec ces quelques versets que nous allons détailler, nous affirme que Christ est le Sauveur, Christ est le Créateur, Christ est la tête de l'Église et Christ est le bien-aimé du Père. Voyons ces quatre points. Christ est le Sauveur. Colossiens 1, les versets 13-14 nous disent: il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. L'être humain est pécheur, naît pécheur, et a besoin de l'amour de Dieu, que cet amour le sauve de cette situation. Et c'est ce que Jésus est venu accomplir par sa naissance et sa mort sur la croix. Nous venons de le rappeler en prenant la Sainte Cène ce matin. Ces deux versets reprennent pleinement les quatre aspects du salut accordé par Jésus. Il nous a arrachés. Ça veut dire qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer vers le royaume de Dieu. Cela nous montre qu'il nous a transférés des ténèbres vers sa lumière, sa connaissance de toutes choses et sa sagesse. Il nous a rachetés par sa mort sur la croix. Il a ainsi payé la rançon qui nous délivre de l'esclavage du péché. Et enfin, il nous a pardonnés. Notre dette est payée et nous pouvons vivre une vie nouvelle avec lui, loin du péché. Nous gardons souvent dans nos esprits que péché, c'est faute, c'est une mauvaise action, c'est quelque chose de mal qu'on fait, comme un excès de vitesse, voilà, ça c'est un péché. Mais le péché, en fait, c'est plus que cela. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est le refus de lui faire confiance, de vivre comme lui le souhaite, comme il l'a voulu en nous créant. Les autres choses, mentir, voler, c'est la conséquence de ce péché dans nos vies. Et c'est de cela que Jésus nous délivre en recréant entre Dieu et nous le lien qui était rompu par sa mort sur la croix. Le deuxième aspect dans ces versets, c'est Christ qui est le Créateur. Les versets suivants, Colossiens 1, 15 à 17, « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. » Ces trois versets nous rappellent que Jésus existait avant la création. Premier-né de toute création signifie qu'il a la priorité sur la création. Il n'est pas question ici d'ordre chronologique, mais du rang, de l'importance de Jésus. Il était déjà avec le Père, Dieu avec Dieu, lors de la création. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, au verset 16. Cette affirmation nous permet alors de bien comprendre que Jésus n'a pas été créé, mais qu'il existait avant toute chose, et que c'est pour cela qu'il peut dominer sur tout. Et Paul insiste ensuite en proclamant que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Vraiment, ces trois versets nous montrent que Jésus est ce Créateur. Et il reprend ces trois affirmations pour réfuter les théories des faux docteurs qui étaient en train de se propager. Il a replacé Jésus au centre et à la tête de toute la création, alors que ces derniers ne faisaient de lui qu'un pion dans le grand échiquier de la vie. Il était une émanation parmi les autres. Mais ainsi, il le fait sans jamais citer les théories de ces faux docteurs qu'il veut contrecarrer. Mais il réaffirme seulement ce que la Bible enseigne. Christ est la tête de l'Église. C'est ce que nous affirme Colossiens 1, 18. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Chaque chrétien est membre du corps spirituel qu'est l'Église, et Jésus en est la tête. On retrouve la même affirmation dans Éphésiens 4, les versets 15 et 16. Et pour les Grecs, le mot « tête » signifiait « source » et « origine », ainsi que « dirigeant », « chef ». Mais Jésus-Christ est vraiment la source de l'Église, qui est son corps. Il en est le chef. Paul l'appelle l'origine ou le commencement. On retrouve dans ce verset. Il est le commencement, le premier-né. Ce qui nous indique que Jésus-Christ est le premier dans l'Église. Le mot « commencement » peut être traduit aussi par « créateur ». Donc on retourne dans le même sens. C'est aussi Warren Wiersbe qui nous explique tout ça là dans son livre « Soyez épanouis ». Et enfin, Christ est le bien-aimé du Père. Colossiens 1, les versets 19 et 20 nous rappellent « Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude est sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Nous avons lu dans le verset 13, « Il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et c'est ce royaume dont il est question dans ces versets. Alors lorsque nous terminons par ces deux versets de notre texte, nous ne pouvons que nous réjouir de ce qui est présenté. La plénitude que nous pouvons trouver auprès de Jésus le bien-aimé, et la réconciliation instaurée désormais par le sang que Jésus a versé pour nous à la croix. Si nous étions un Grec de l'ancien temps, un grec de l'époque de Paul, versé dans l'art de la philosophie de cette époque, nous pourrions comprendre encore mieux la portée de ces affirmations. Le mot que Paul utilise pour parler de plénitude se dit en grec « pléroma ». Et c'était précisément un des termes techniques qui était utilisé par les faux docteurs. Il signifiait la somme totale de toute la puissance et des attributs divins. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ces émanations, de tous ces gens qui peuvent nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Et ce mot de plénitude, quand vous relirez une nouvelle fois l'épître aux Colossiens, vous verrez qu'il est utilisé 8 fois dans cette épître. Paul voulait attaquer les faux docteurs sur leur propre terrain, avec leurs mots, mais en les utilisant d'une façon différente. Le mot « demeure » aussi est important. Il signifie « être à la maison de façon permanente ». Ça nous montre bien le caractère définitif du salut acquis par Jésus, la volonté du Père d'avoir l'humanité réconciliée avec lui pour l'éternité. Les faux docteurs assuraient que les anges et les émanations pouvaient d'une certaine façon rapprocher les hommes de Dieu. Paul, quant à lui, rappelle sans aucune ombre de doute que c'est le sang de Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu et que cela est valable pour l'univers tout entier. Ainsi, tous ceux qui croient au sacrifice du Fils sont sauvés. Alors, après avoir de façon si magistrale rappelé la doctrine qui concerne Jésus-Christ, Paul va quand même mettre en garde les Colossiens contre les faux enseignants, afin de ne pas se laisser détourner de Dieu, afin de ne pas s'égarer dans de vaines croyances. Est-ce que pour notre part, nous sommes certains que nous suivons la bonne doctrine de Jésus-Christ ? Si pour les Colossiens, il était si facile de se laisser séduire par les philosophies et la culture de leur époque, au point de se tourner vers ces faux docteurs, qu'en est-il pour nous au XXIe siècle ? C'est pour ça que j'ai imaginé comme titre à ce message « Le colosse au pied d'argile ». Vous connaissez ce colosse dans l'Antiquité ? C'était une grande statue qui avait la tête en or, la poitrine en airain, les jambes le bassin en argent, et puis ses pieds étaient faits d'argile. Et quand il y a eu un tremblement de terre, tout le reste, airain, or, argent, s'est resté bien en place, mais l'argile s'est craquelée et le colosse est tombé. Et il peut en être de même pour nous si nous faisons comme les Colossiens, si nous gardons un attrait pour certaines choses, entre guillemets, du monde. Notre foi va vaciller parce qu'elle n'est pas bien stabilisée sur des pieds bien établis. Alors, quels sont ces pieds d'argile ? Comment est-ce que Paul peut nous interpeller au XXIe siècle ? Dans les paragraphes qui suivent cet hymne à Jésus-Christ, Paul évoque certains égarements des Colossiens. Et j'en ai noté 3 qui peuvent avoir un raisonnement pour nous. Dans Colossiens, au chapitre 2, les versets 16-17, « C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. » Ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez ou buvez ou de ce que vous faites. Mais est-ce que vous vous êtes parfois demandé si les traditions que vous respectez dans votre vie chrétienne sont des impératifs bibliques ? Ou bien si ce sont juste des habitudes qui petit à petit deviennent plus importantes que la parole de Dieu elle-même, au point de croire que vous avez choisi de vivre en communion avec Dieu et que ce que vous faites est ce que Dieu veut ? Et alors que rien dans la Bible n'en parle. Peut-être que vous n'arrivez pas à imaginer là où je veux en arriver. Alors voici un exemple vécu sur le champ missionnaire quand nous étions Cameroun, Hervé et moi. Un jour, je discutais avec un pasteur camerounais au sujet d'un jeune couple qui avait décidé de se marier. Ces jeunes étaient bien ennuyés parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ils ne pouvaient pas financer une grande fête. Au Cameroun, il y a les obligations de dot. Il y a François qui va vivre ça dans quelques jours, là. Il y a les cadeaux à faire à la famille, hein, de la jeune mariée. Il y a les tenues de mariage, il y a le grand repas et bien d'autres choses. Tout cela, c'était trop pour eux. Alors le pasteur me rassurait, l'Église pouvait se mobiliser et aider pour que la fête soit belle. Mais au moment où nous avons commencé à discuter des tenues des mariés, j'affirmais avec conviction que selon moi, la jeune fille pouvait s'acheter un nouveau pagne, un joli pagne, et vivre cette cérémonie habillée ainsi. Ensuite, elle pourrait réutiliser ce pagne, sans problème. Et quelle ne fut pas ma surprise d'entendre le pasteur me dire qu'il n'était pas question pour lui de bénir un mariage où la mariée n'aurait pas mis une robe de mariée blanche comme chez les Européens. Et là, il m'a expliqué que la mariée, pour se marier, doit être habillée en blanc, doit avoir la vraie robe de mariée, et que c'était ce que la Bible demandait parce que c'est le symbole de la pureté. Et on ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si vous avez lu votre Bible en entier, mais moi, je n'ai jamais trouvé ça nulle part dans ma Bible. Mais lui était convaincu, il ne pouvait pas bénir le mariage, parce que peu à peu, dans la tradition, on mettait qu'il fallait avoir cette robe blanche. Et ce qui était une tradition devenait pour ce pasteur plus important que l'amour pour ces jeunes mariés, envers ces jeunes mariés, et la bénédiction à apporter à ce mariage. Il était prêt à annuler la cérémonie s'il n'y avait pas de robe de mariée. Alors vous vous dites que ben pour vous, votre vie chrétienne, c'est bien, je donne un exemple, mais c'est quand même caricatural, vous n'allez pas jusque-là dans vos jugements. Mais est-ce que parfois, nous ne tenons pas plus à telle ou telle tradition qui nous viennent de nos parents, qui nous viennent de notre communauté, qui nous viennent... Et puis, cela entrave notre communion avec Dieu et avec les autres chrétiens, parce que ben, je ne vais pas aller à tel endroit parce qu'on ne fait pas ça comme ça. Au point que nous jugeons et considérons une sœur ou un frère comme étant mauvais chrétien parce qu'il ne fait pas ça. Je ne vais pas vous donner des détails, mais je vais vous laisser y réfléchir. Dans cette même citation de Colossiens, outre le jugement sur la nourriture ou les fêtes, il est question de lune ou de sabbat. Et il est malheureusement toujours d'actualité d'entendre des chrétiens parler de superstition ou d'astrologie, de magie ou autres pratiques spirituelles. Donc lune, sabbat, ça m'a fait avancer les idées vers les cartes du zodiaque et tout. Paul se permet de faire de sérieuses mises en garde. Et pourquoi ? Parce qu'à son époque, les gnostiques, donc une partie de ces Grecs qui s'étaient convertis, gardaient présent dans leur croyance que des esprits élémentaires de l'univers et des anges influençaient la vie des êtres humains. Que parce que les éléments se sont associés comme ça et ça, c'est ça qui va régir la vie des gens. Ça commence à vous parler avec l'astrologie ? Et est-ce que de nos jours, on ne parle pas encore d'anges gardiens ? Est-ce que tout le monde a une pensée claire au sujet des anges gardiens ? Est-ce que vous vous êtes demandé un jour si c'est évoqué dans la Bible ? Pourtant, les enseignements qui évoquent les anges et les démons ne font pas partie de la doctrine chrétienne. En parlant de pleine lune et de sabbat, donc ça me fait penser aux horoscopes, aux cartes astrologiques, aux pratiques spirites, dont sont de plus en plus friands nos contemporains, qui cherchent un sens à leur vie. Ils se tournent vers des spiritualités douteuses. Mais est-ce que nous-mêmes, nous ne nous laissons pas influencer par tout ce monde occulte qui nous éloigne ainsi du vrai Dieu que Paul nous a présenté, Jésus-Christ, le maître de l'univers ? Tout le système du zodiaque est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Le chrétien qui touche un tant soit peu à l'occultisme et au mysticisme rencontrera des problèmes, introduira des liens dans sa vie dont il aura du mal à se couper. Et on peut aussi penser à la magie, qu'on la qualifie de blanche ou de noire, excusant l'une et rejetant l'autre, aux astrologues, aux voyantes. Le monde spirituel est peuplé d'êtres qui ont voué leur vie au diable. Et peut-être êtes-vous étonné que j'en parle ce matin, parce que dans nos milieux, on évite d'en parler, on n'ose pas trop toucher au sujet, ça fait peur. Alors, peut-être qu'on a peur de froisser certains, ou peut-être que comme on ne connaît pas, on ne s'en soucie pas. Je vous invite, si vous rencontrez des difficultés dans ce domaine, à prendre contact avec les anciens de l'Église, avec les membres du Conseil. Et puis, un dernier point, en Colossiens 2, les versets 18 et 19. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leurs visions, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils refusent de s'attacher au Christ qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Et dans ce dernier passage, Paul évoque ceux qui s'adonnent à un culte des anges. Alors ça me paraissait mystérieux et j'ai essayé de comprendre à quoi il est fait allusion. En fait, ces faux docteurs à Colosse avaient des visions et ils entraient en contact avec Dieu par l'intermédiaire des anges. L'idée était de passer par une cérémonie d'initiation pour entrer en contact avec lui. Et en fait, ce mysticisme était enveloppé de fausse humilité. Il pensait « je ne suis pas assez bon pour venir directement vers Dieu, alors je vais commencer par l'un des anges ». Cette conception du respect, du culte, de la communion que nous avons avec Dieu est complètement erronée si l'on s'en réfère à la Bible. Nulle part il n'est fait mention d'une possibilité de s'adresser à Dieu au travers d'autres personnages qui mettraient un voile protecteur entre un Dieu trop saint pour nous et les êtres trop pécheurs que nous serions. Au contraire, par exemple, en 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, nous lisons « En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Toute autre tentative de s'adresser à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, par des moyens qui paraissent plus acceptables à notre nature humaine, n'est que de l'idolâtrie qui consiste à remplacer la parole de Dieu par des traditions humaines. Alors nous sommes ce matin dans une église évangélique et a priori chacun de nous prie Dieu, son Père céleste, sans passer par un intermédiaire autre que Jésus. Mais pourtant, lorsque nous commençons à prier en utilisant certaines formules, comme si elles étaient magiques et garantissaient à nos yeux l'exaucement d'une requête, ou bien lorsque nous pensons que nous ne pouvons pas parler à Dieu de tel ou tel sujet parce qu'il est bien trop saint pour cela, est-ce que nous ne commençons pas à laisser entrer ces idées fausses des Colossiens dans nos têtes ? Dieu nous demande de venir à lui et de partager toutes nos joies, toutes nos peines, toute notre vie avec lui. C'est dans ce secret de ces conversations que nous avons avec lui qu'il peut nous enseigner et nous faire avancer, nous aider à grandir. Alors pour ma part, quand j'étais jeune chrétienne, je pensais que Dieu était trop saint pour s'intéresser à mes problèmes, par exemple de dépenses, d'argent, de prix des choses. Mais dans l'église où nous avons vécu quelques années, à Reims, je devais organiser chaque mois le repas communautaire. Et on proposait un plat à toutes les personnes qui restaient à ce repas, qu'ils soient membres de l'église ou visiteurs. Et il y avait un tarif à respecter. Alors vous allez voir, c'était à une époque dont on ne parle plus parce qu'il fallait respecter que ça coûtait 10 francs par adulte et 5 francs par enfant. Donc, il y en a certains ici qui savent même plus ce que sont les francs. Mais voilà, un jour, j'avais envie de préparer un plat et c'était un peu cher et j'ai prié, j'ai osé prier. Et j'ai demandé à Dieu que ce que je devais acheter, ça soit en promotion cette semaine-là. Et puis comme ça a marché, finalement, au moins 3 fois dans l'année, j'ai fait cette prière et on a eu des super repas avec des super plats parce que Dieu avait permis que ça soit en promotion. Mais moi, j'ai retenu de cette époque que Dieu n'est pas trop saint pour se préoccuper de ce genre de problème. Il prend ces problèmes-là aussi à bras le corps. Il n'y a pas besoin de voiler des choses ou quoi. On a un accès direct à Dieu pour toutes choses. Alors voilà, nous avons réfléchi au sujet de l'église de Colosse et des faux enseignements qui s'y développaient. Et nous avons pu constater que Paul, au lieu de réfuter de front ces enseignements, a préféré annoncer en tout premier qui est réellement Jésus-Christ, établir les bonnes bases, ce Fils de Dieu qui est pleinement Dieu. Nous avons pu aussi remarquer que ces fausses doctrines, loin d'être le lot uniquement des Colossiens dans les temps anciens, pouvaient voir jour à notre époque, dans nos vies, et que nous devons être attentifs pour ne pas nous laisser séduire ou détourner de Dieu, pour avoir des mauvaises interprétations. Mais finalement, ce que Paul enseigne dans cette épître est de nous plonger dans la parole de Dieu pour connaître parfaitement l'enseignement qu'il nous donne afin de lui rester fidèle. Et pour pouvoir le faire, pour avoir les forces, la sagesse et le discernement, nous pouvons suivre l'exemple de Paul et de ses compagnons. C'est mentionné à plusieurs reprises au long des 4 chapitres de cette épître. Il faut prier. Il dit ainsi dans Colossiens 1, le verset 9, « Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Et Paul exhorte les Colossiens à la prière au chapitre 4, les versets 2 et 3. Au chapitre 4, verset 12, il rappelle qu'Épaphras combat dans ses prières pour les Colossiens. C'est ainsi que pour nous, notre foi et notre amour pour Dieu, notre connaissance de sa parole et notre obéissance pourront grandir, afin que nous puissions entrer dans la plénitude de notre vie de croyant. Nous ne serons pas alors des colosses aux pieds d'argile qui vacilleront à tout moment, mais nous serons fermes et assurés dans notre foi. Alors pour appliquer cela, je vous invite à prier maintenant.